Générique.
Bonjour, bonjour à tous. Un nouveau générique s'ouvre avec encore de très très bons films. Nous allons commencer aujourd'hui par une reprise en Blu-ray, Pitch Black de David Bowie avec Vince Diesel, Radha Mitchell, Cole Hauser, Pete David. 1h45 ça a duré. C'est tiré d'après une histoire originale de James et Kate White. Ce film est sorti le 19 juillet 2000. Il ressort aujourd'hui même en 4D et Blu-ray chez l'Atelier de l'Image. Pitch Black de David Bowie pourrait en réaliser à l'infini. Ce sujet est inépuisable, peut-être sous la plume des frères White. La preuve en est un autre déjà a été réalisé et que le quatrième est dans les tuyaux. Dans cette version, un vaisseau spatial heurte une météorite et finit sa course sur une planète totalement inconnue. Des dégâts humains et matériels sont à déplorer et surtout de tenter de savoir où le vaisseau a terminé sa course. Certains posent le pied sur ce sol inconnu, d'autres restent à l'affût aux commandes du vaisseau au cas où. Dans ce groupe se trouve un redoutable tueur qui est prisonnier de l'embarcation, solidement amarré avec des chaînes à des montants de l'engin. D'un coup d'un seul, il n'est plus là. Il s'est libéré de ses liens et a pris la fuite dans ce désert hostile où personne ose s'aventurer. Riddick, son nom, observe tout ce beau monde sans s'ébrouer à la recherche de la survie et surtout du comment faire pour repartir de ce lieu défavorable au possible. Williams Jones a ses idées fixes, eux, mener l'expédition au mieux sans trop tenir compte des ordres de Caroline Frey, devenue par la force des choses le chef de bord. Tout cela sous le regard malicieux de Riddick, qui indirectement se trouve mêlé à l'aventure et contre une pseudo-liberté, doit leur servir de guide et d'aide dans cette zone totalement hostile. Le tour est presque joué, le suspense est au lac, des bestioles viendront perturber le chemin retour, car la nuit noire aura fait son apparition là où il aura fallu l'éviter. Ces chauves-souris géantes diminueront le générique final. David Bowie ne réalise pas un chef-d'œuvre du cinéma mondial. Il faut être honnête, son film tient la route pour une raison très simple, qui est que malgré ces bestioles qui sont relativement voraces et carnivores, elles maintiennent un suspense jusqu'au bout pour savoir qui va s'en sortir. Car il arrive un moment, l'équipage est mal embarqué dans ce méandre douteux et sombre. Car le coup du traître embarqué, du truand sans foi ni loi, qui dans un dernier geste devient le sauveur, qui malgré des vérités personnelles de la femme qui donne sang et eau pour sauver tout le monde, est comprend l'incomprenable. En revanche, le Blu-ray vous offre des bonus très très importants sur l'encyclopédie et la chronique de Riddick, bande-annonce, des commentaires audio de Vin Diesel, David Bowie, plus un disque total sur les analyses de Julien Dupuis sur des séquences et un sujet au milieu des ténèbres, et encore bien d'autres suppléments d'environ 1h20. Pour les fans du propos, là c'est encore Noël et un super cadeau. A noter que David Bowie est né le 18 octobre 1955 à Los Angeles, il est réalisateur et scénariste. Il a une filmographie pas gigantesque, mais toute basée sur, on va dire, les mêmes films, puisqu'en 92, il fait Le Passager du Futur, en 96, The Arrival, en 2000, le film qui nous intéresse aujourd'hui, Big Black, en 2002, Abîme, en 2004, Les Chroniques de Riddick. Alors là, c'est une réécriture partielle, puisque Riddick a été intégré à la saga. 2009, Escapade du Fatal. En 2013, un autre Riddick. Et actuellement, il est en préparation, Riddick 4, La Furia. On l'attend, on verra si un changement, une nouveauté par rapport à celui-ci. Voilà ce que l'on peut dire sur ce film. À voir, vous l'avez peut-être déjà vu au cinéma. Si ça vous donne envie de le revoir, bah vous le trouvez dans tous les bons bacs à compter d'aujourd'hui.
Générique.
Duvida de Manny Cole, 1h20 sa durée, c'est tiré de l'œuvre de Midnight Vendetta. Manny Cole s'inspire d'un conte populaire. L'histoire se déroule dans la campagne du Rajasthan. Elle est celle de la légende d'un fils d'un marchand qui rentre chez lui avec son épouse, qu'il vient présenter à son père. Manny Cole, via Midnight Vendetta, inclut un fantôme qui vient hanter la jeune mariée, prenant la physionomie de son époux parti, qui l'informe qu'il la déposera et partira ensuite pour une ville lointaine pendant 5 années pour faire fortune. Son père n'acceptera pas ce retour inopportun et pas assez légitime et en évitant tout dialogue. Ensuite, une fois le marié parti, le fantôme, voyant l'occasion, se change et prend la forme et l'apparence du marié, fait une apparition à la maison familiale, s'excusant auprès du père pour ce tumulte tumulte occasionné par ce retour mouvementé. Nous ne sommes pas chez Claude Autant-Lara et son Sylvie et le fantôme, mais des similitudes y font penser. Nandy Cole part sur une base simple. Son film l'est beaucoup moins, car il le transpose sur plusieurs sujets à la fois. Le mariage, la grossesse, la fidélité, la tromperie, la paternité. Tous ces éléments sont mêlés. Sans y avoir l'air, tout est dans la subjectivité. Rien n'est lourd ou pesant. Nandy Cole propose dans des images lentes et musicales ses idées. La violence est plus verbale que physique. Nandy Cole, pour beaucoup, est une découverte. Son cinéma avec ce premier film visionné est passionnant, original, différent du cinéma indien dans cet immense pays de cinéma, le plus grand au monde, sorti des films musicaux, reste un cinéma très important, pas assez connu par le plus grand nombre, ce qui est bien dommage. Cette mini-rétrospective est l'occasion de se pencher sur cet art et ce metteur en scène qui est Nandy Cole. Donc ne ratez pas cette occasion. Husky Roti est un autre film de Nandy Cole qui nous est proposé d'après l'œuvre de Mohan Rajket. Nandy Cole, dans ce film, voudrait nous faire monter dans un bus qui a des horaires aléatoires. Susha Singh en est le chauffeur. Il est marié à Balo, qui tous les jours lui apporte son déjeuner sans pour cela que le bus soit là, ou soit déjà passé, ou soit trop en retard. Balo, pour se rendre à cet arrêt, traverse de longues distances de champs pour se poster sous un arbre. Un homme aussi attend et lui dit que les horaires ne sont jamais respectés. Au bout d'une longue attente, Balo fait le chemin inverse. Susha mène de plus en plus une vie indépendante vis-à-vis de Balo, qui ne comprend pas très bien la situation malgré les mises en garde de sa sœur. Susha préfère jouer aux cartes avec ses amis et rejoindre sa maîtresse plutôt que de rentrer à la maison. Balo est naïve devant cette situation. Un jour où elle portera secours à sa sœur, des avances plus que douteuses d'un personnage local, Balo arrivera en retard au bus pour le repas de Susha, qui ne supporte pas. Cet impair refusera de consommer la nourriture et partira en trombe sans tenir compte du déplacement et des explications de Balo. D'entrée de jeu, Nandy Cole pose les bases de son film sur l'attente en tout genre. Balo attend un bus qui ne viendra pas. Son regard se porte de gauche à droite sans rien apercevoir. C'est le début du dédain d'une personne sur une autre. C'est une puissance qui ramène de l'argent au foyer et l'autre qui le gère, même si cet argent est divisé dès le départ. Nandy Cole veut raconter une histoire d'amour sans les protagonistes. Il essaye de les rapprocher tout le long de son film sans presque jamais aboutir à ses fins. Il donne à Balo une sorte d'optimisme rentré qui font qu'elle n'abandonne jamais, jusqu'à ce qu'en fin de compte, la tendance s'inverse, que Susha reprenne conscience de la réalité et revienne quasiment comme un mirage. Très très beau film et assez dur. Il faut noter que Nandy Cole est né le 25 décembre 1944 à Jaipur en Inde. Il est décédé le 6 juillet 2011 à Gungan en Inde, toujours. Il était réalisateur et scénariste. Il a une filmographie relativement importante. Je vous donne un ou deux films comme ça au hasard. Son premier film est Pain quotidien en 1969. En 71, il a fait Un jour de mousson. En 73, Davida, le film précédent dont on a parlé juste avant. En 84, il a fait un documentaire qui s'appelle Un esprit d'argile. En 92, L'idiot. Voilà, je pense qu'on peut dire sur ces films, c'est un metteur en scène important qu'il faut découvrir. Il a fait deux autres films dans cette collection qui sortent aujourd'hui. Je vous les donne, nous n'avons pas visionné car nous n'avons pas reçu ces films. Il s'agit de Nazar, bien sûr, toujours de Nandy Cole. Sa durée est d'1h30 et c'est tiré d'une nouvelle de Dostoïevski. Il sort aussi aujourd'hui, il sera avec les deux précédents. Le quatrième film, toujours bien sûr de Nandy Cole, est Un jour avant la saison des pluies. Il fera aussi partie de cette collection, donc précipitez-vous pour visionner ces quatre films de Nandy Cole. C'est une occasion unique et peut-être qu'on en verra d'autres un peu plus tard.
Générique.
16 ans de Philippe Lioret avec Sabrina Lovoy, Telio Azaïs, Jean-Pierre Loris. 1h35 sa durée, ce film était au Festival du film francophone d'Angoulême en 2022. Philippe Lioret, comme à son habitude, réalise un film des plus intéressants sur des relations de classe dans une société qui n'ose pas dire son nom, où la comparaison sociale et raciale a une part importante sur la réussite ou non. Philippe Lioret ouvre son film sur un homme, pareil, maghrébin, qui travaille dans un supermarché comme manutentionnaire. Du jour au lendemain, sans aucune preuve, il est accusé de vol d'alcool et viré sur le champ. Lui, qui n'en boit pas, pour la banale raison qu'une bouteille de grande valeur a disparu. Tarek se retrouve devant un énorme dilemme. Il a acheté une moto pour aller travailler en empruntant de l'argent à un mafieux local qui, lui, ne veut pas entendre la raison sociale et réclame son dû. Sa petite sœur Nora poursuit ses études et fait la connaissance d'un jeune homme, Léo, sérieux, lui aussi concerné par les études, mais de famille très bourgeoise. Et accessoirement, fils de Franck, directeur du supermarché. Par un concours de circonstances, Tarek voit sa sœur avec Léo et lui explique réellement qui il est, qu'à compter de ce jour, il ne veut plus la voir traîner et discuter avec lui ou il le détruit. Nora ne comprend pas cet acharnement. Léo n'y est pour rien dans son licenciement. Elle explique à ce dernier ce qui se passe. Lui, il assure qu'il va en parler à son père. Franck, lui, déclare qu'il a en face de lui un voleur. Il ne lèvera pas le petit doigt pour le réintégrer. Léo ne comprend pas l'attitude de son père, qui n'a qu'un mot à dire pour résoudre le problème. Tarek, de plus en plus, s'enfonce dans le non-retour, le remboursement de sa moto pour des emplois qui ne se concrétisent pas. Sa sœur, qui parle au fils de celui qu'il a licencié, un règlement de compte qui se passe mal. Tous ces accumulements de choses font que Tarek est au bout du bout. Il remet sa haine de l'autre sur sa sœur qui ne le comprend pas. Nora ira jusqu'à quitter la France pour pouvoir continuer ses études correctement quand son père parle de la renvoyer au bled. Léo et Nora montent un stratagème pour échapper à la bêtise ambiante. Philippe Hilloret, avec ce film, montre la dure réalité des choses, la bêtise humaine, la non-compréhension, la différence sociale, la limite sociale, aussi bien du côté bourgeois que prolétarien, pour arriver au non-retour. Philippe Hilloret, en même temps, montre la force des puissants devant les non-écoutés, avec la facilité d'exécution des sentences. Le chaos urbain s'installe pour faire monter cette brutalité sous-jacente qui demande qu'à éclater et la réprimander dans une autre violence. Philippe Hilloret montre et démonte tout ce monde qui se croise et qui demande qu'à vivre en harmonie l'un avec l'autre, que le petit grain de sable vient toujours gripper la machine au moment où l'on s'attend le moins. Les coïncidences font que les événements s'entrechoquent et les différences remontent en surface. Cela a un nom, le racisme. Il ne pousse pas sur les arbres, c'est une réelle invention de l'homme sur l'homme et il a toutes les formes que Philippe Hilloret nous le montre. Franck, plus intello, pourrait paraître dépourvu. Son comportement vis-à-vis de son fils, de Tarek et de ses partenaires, seul compte pour lui sa situation et les dettes qui vont avec. Tarek, lui, en veut à la terre entière et aux chrétiens en particulier pour l'avoir licencié et traité de voleur. Ce petit monde ne connaissant pas niveau intermédiaire, donc hiérarchique, plus tous les intermédiaires qui gravitent comme des insectes sur des fruits mûrs. Philippe Hilloret ne fait pas de cadeau à personne dans son film. Nora, Léo, Tarek, Franck, chacun dans leur cause ne ressortiront pas indemnes. Film très dur qu'il ne faut absolument pas rater, comme souvent chez Philippe Hilloret. A noter que Philippe Hilloret est né le 10 octobre 1955 à Paris. Il est réalisateur et scénariste. Il a une filmographie, on va dire, importante. Comme ça, deux, trois films au passage. 1984, Tout doit disparaître. C'est un court-métrage. Son premier film long-métrage, 1994, Tombé du ciel. Tenue correcte et exigée, 1997. 2001, Mademoiselle. 2004, L'équipier. 2006, Je vais bien, ne t'en fais pas. 2011, Toutes nos envies. 2016, Le fils de Jean, et 2022, 16 ans, le film qui nous intéresse aujourd'hui et que je vous recommande plus que vivement.
Générique.
Radio Métronome, c'est un film d'Alexandre Black, 1h40 sa durée. Ce film a obtenu le prix de la mise en scène aux Certains Regards en 2022. Le film d'Alexandre Black part d'un fait réel qu'il avait lu qui s'était déroulé dans le début des années 70 en Roumanie. Radio Free Europe, qui diffusait une émission Métronome, il s'est penché sur le sujet pour élucider cette énigme d'interdiction par le régime communiste de Ceausescu, avec toutes les conséquences que cela implique à ceux qui, de près ou de loin, ont tourné ou approché cette émission. Alexandre Black se sert de la jeunesse roumaine pour ressasser ce fait. Cette jeunesse, qui apparemment n'a rien d'importune, ni politique, ni autre chose, vit pour l'avenir au travers de leurs études, la liberté qu'ils ont acquis à l'université. Ils veulent continuer à la cultiver dans leur vie professionnelle. Ils organisent une boum où Anna, une jeune fille calme et rangée, dont les parents sont dans les clous vis-à-vis du pouvoir. Il ne lui autorise pas d'y aller. Son père, lui dit qu'il fera le maximum auprès de sa mère pour infléchir sa décision. Sorine, son petit ami, lui avait demandé si elle venait à la soirée. Anna avait répondu par la négative, sachant la réponse de ses parents à l'avance. Comme elle le prévoyait, sa mère refuse catégoriquement cette sortie. Anna prend sur elle, bravant le refus parental, par elle-même et se rend à la soirée. À la surprise de sa collègue qui ne l'attendait pas, Anna se fond dans la fête avec les vêtements de la mère de la copine, car elle ne peut pas faire une surprise partie avec ceux de l'école. La fête bat son plein. À la surprise d'Anna, Søren n'est pas là. Elle demande et tout le monde lui dit qu'il va arriver. Effectivement, il arrive. Il est surpris de voir Anna ici. Ils ont une tentative de rapport sexuel à la va-vite. S'ensuit, il demande à Anna de partir sur le champ. Elle ne comprend pas. Lui part. Pas elle. Elle sort déambuler dans les rues et revient dans l'appartement. Là, un homme l'interpelle et lui demande ses papiers. Elle est emmenée au commissariat, interrogée pourquoi elle se retrouve là. Connaissait-elle tous les protagonistes? Si elle dénonce, elle est libre. Son père vient la chercher et va dans le même sens. Pour son bien, dénonce et rien ne sera fait. Le commissaire lui assure la même chose. Anna dénonce. Elle n'est pas libre pour autant. Le commissaire lui demande encore un bonus d'information. Là, elle a un laps de temps pour répondre. Elle ressort libre avec son père. Dès qu'elle peut, va voir Søren chez lui. Elle est reçue par sa mère qui lui dit qu'il est parti chercher les billets du voyage. Quand il revient, ils font l'amour. Il lui dit qu'il ne savait pas qu'elle se trouvait à la soirée et lui dit que c'est lui qui a dénoncé à la police le groupe pour pouvoir quitter la Pologne et aller en Europe de l'Ouest libre. Anna n'est pas dupe et répond qu'elle le savait. Alexandre Blake, avec ce fait divers, réalise un film de toute beauté, car il n'hésite pas à mettre en avant le système roumain de Ceausescu, par petites touches sans jamais citer son nom, totalement corrompu à la botte du grand frère et de ses méthodes, où la délation a plus de valeur que les papiers d'identité. Doucement, le film glisse de l'histoire d'amour au doute, à la tromperie, à la trahison, l'âge adulte, peut-être le pardon. Anna portera toute sa vie ce secret, cette dénonciation forcée au service d'une trahison volontaire de Søren. Même si elle donne l'impression d'avoir repris une vie ordinaire au lycée, une trace indélébile la suivra toute sa vie. A noter que Alexandre Blake est né le 26 juillet 1980 à Brașov, en Roumanie. Il est réalisateur et scénariste. Il a une toute petite filmographie, puisqu'en 2012, il a réalisé 8 mars, c'est un documentaire. En 2015, Cinéma, mon amour, c'est aussi un documentaire. Et en 2022, Radio Métronome, le film qui nous intéresse aujourd'hui et que je vous recommande plus que vivement. Ce générique se clôt. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec encore de très bons films.
Générique.